Sud Radio, il est 4h. Sud Radio. Parlons vrai.
Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente.
Sud Radio, midi 13h. Alexis Poulain, sans réserve.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Poulain sans réserve, on est ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio pour parler avec notre première invitée, Béatrice Denas, de la transphobie. Est-ce qu'il y a une transphobie en France qui gagne du terrain? Et puis on parlera en deuxième partie d'émission avec Benjamin Morel, politologue de Gabriel Attal et de sa passion pour l'autorité et son discours d'hier, bien sûr, et des 100 jours. Si vous souhaitez nous joindre, le standard, c'est le 0826 300 300 pour poser vos questions et réagir à nos invités. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 13h. À tout de suite.
Sud Radio Paris
99.9 et en DAB+. La marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente
Alexis Poulain, sans réserve, l'invité.
Et notre invitée, c'est Béatrice Denas. Vous êtes journaliste, coprésidente de Transsanté France et vous avez sorti un livre aux éditions First, Ce corps qui n'était pas le mien. Vous racontez en fait cette vie que vous avez attendue de devenir enfin une femme. Enfin, vous étiez une femme, mais le corps que vous aviez était celui d'un homme. Et vous expliquez d'ailleurs avec beaucoup de détails les opérations de transition, les questions que vous avez aussi dans votre vie. Et puis la difficulté en fait quand on a cette dysphorie de genre, c'est ainsi qu'on l'appelle, de comprendre qu'on n'est pas seul, de savoir ce qui nous arrive, de le faire accepter aux autres aussi, sachant que vous avez attendu d'avoir 60 ans pour faire cette transition, et qu'à l'époque où vous vous posiez ces questions, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, et vous étiez dans une solitude totale. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que les personnes trans sont mieux accompagnées, qu'il y a sur cette dysphorie de genre une meilleure connaissance, même si on va parler après, évidemment, de la transphobie?
Ben oui, parce qu'en fait, quand on dit, on a l'impression que, enfin, souvent, et notamment les transphobes, et je pense qu'on en parlera de Dora Mouto et Marguerite Stern, en fait, on a l'impression que ça m'a pris à 60 ans. Non, non, c'est parce que tout simplement, je suis dans une génération. Moi, c'est depuis que j'ai l'âge de 4 ou 5 ans que je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui collait pas en moi et que intérieurement je me sentais fille alors dans un corps de garçon. D'ailleurs, je m'empresse de préciser qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de lobby LGBT, ni quoi que ce soit, aujourd'hui. Ouais. C'était pas une mode non plus, comme on le dit aujourd'hui. Mais simplement, intérieurement, je le ressentais, sauf que c'était d'autant plus dur pour moi qu'à l'époque, en effet, on parlait pas de transidentité, donc je me suis demandé si j'étais pas un monstre, d'ailleurs, de me sentir mal, et puis j'ai plongé dans une hypertimidité, une désocialisation, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la chance, en effet, d'en parler ouvertement. Il n'y a pas une épidémie, simplement, comme on n'en parlait pas avant. On a l'impression que ça n'existait pas. Mais en plus, dans mes conférences, je raconte en effet que ça existe depuis
très longtemps.
Très longtemps, depuis la mythologie grecque, ça existe, en fait.
Les premières opérations aussi remontent aux années 30.
Aussi, exactement. C'est à peu près dans les années 50 que ça commençait un peu à... Enfin, on a commencé à essayer d'aider les personnes trans à être elles-mêmes. Ça restait quand même très très marginal, c'était aussi très psychiatrisé. Aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué. Donc c'est en ça que c'est intéressant de se dire, ça a avancé. Les enfants trans, parce qu'on va en parler aussi, je suppose, les enfants trans, ils ont cette possibilité que moi, je n'ai pas eue. Moi, j'ai eu une enfance très très dure, alors non pas de la faute de mes parents, mais très très dure, parce qu'en effet, j'étais pas la personne que j'aurais dû être.
Et vous pouvez en parler à personne, c'est ça.
Et je pouvais en parler solitude, à personne. Ouais. Donc, et c'était pas, c'était pas le fait que je sois folle ou fou. Encore une fois, c'était simplement que je le ressentais. Donc aujourd'hui, et dont les enfants trans. Alors, on a dit oui, mais c'est du prosélytisme. Vous savez, tous les matins, je suis en train de compter en me disant, ah, super, il y a 3 enfants de plus. D'autant qu'on sait que c'est quand même une forte souffrance de ne pas être soi-même. Donc non, simplement. Le fait que maintenant il y ait des équipes qui les suivent, les enfants trans, mais qui les écoutent, parce que peut-être qu'ils sont pas véritablement trans, peut-être que c'est une transition, temporaire. Donc, on va pas, et contrairement à ce qu'on dit, ils vont pas être opérés, les opérations c'est pas avant 18 ans. Exceptionnellement, 16 ans pour les torsoplasties, c'est-à-dire en fait l'ablation des seins, si vraiment l'ado trans va vraiment très très mal, qu'il en est déjà à 2 ou 3 tentatives de suicide et une énorme dépression, une déscolarisation et autres, on va l'aider. Mais en quoi ça fait du mal à quelqu'un qu'on aide des personnes qui sont dans une forme de détresse? Moi, franchement, je comprends pas et c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Et en effet, on est arrivé dans une situation de transphobie, mais véritablement brûlante. Et moi, ça m'inquiète beaucoup.
Vous pensez que la transphobie en France gagne du terrain?
En ce moment, on peut pas dire, mais entre... le groupe LR du Sénat qui vient de déposer une proposition de loi qui veut interdire tout accompagnement des enfants trans, donc rien avant 18 ans.
Mais rien, y compris psychologique.
Alors ce qu'ils proposent, c'est ce qu'on appelle, nous, des thérapies de conversion, c'est-à-dire qu'en fait, ils voudraient en effet développer des groupes de pédopsychiatres, mais non pas pour les aider, mais simplement pour ce que j'appelle les remettre dans le droit chemin. Et c'est exactement une thérapie de conversion. On est exactement dans la même situation que les homosexuels dans les années 60-70, où en effet des sectes, des médecins avaient lancé des thérapies de conversion parce que être homo, bah, c'était une espèce pour eux, hein, de déviance. Il fallait les remettre dans le droit chemin. On sait qu'en règle générale, ça conduisait encore plus à des suicides, d'ailleurs. Voilà, on peut pas aller contre le fait. Je vais vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir, mais c'est exactement la même chose. Souvenez-vous, pendant des années, les gauchers, on a essayé de les contrarier. Il fallait absolument être droitier parce que c'était insupportable d'être gaucher. Ben, le gaucher, c'était pas une lubie, c'était pas un peu la même chose. C'est quelque chose qui arrive en soi. On ne le fait pas exprès. Ce serait beaucoup plus simple si on était dans, entre guillemets, dans la norme. Voilà, on ne l'est pas et on n'est pas là pour embêter qui que ce soit. On est là simplement pour vouloir vivre notre vie d'une manière simple, comme n'importe quel citoyen, citoyenne, et qu'on ne mette pas les bâtons dans les roues en permanence.
Mais alors après, il y a le livre, hein, comme vous le dites, de Dora Mouto et Marguerite Stern, Transmania. Ouais. Qui fait état plutôt d'une situation aux États-Unis, hein, plutôt que de ce qu'on a en France, alors, avec un certain prosélytisme peut-être aussi de milieux militants. C'est pas le cas en France.
Alors honnêtement, j'ai pas encore lu leur livre, mais j'ai lu des extraits qu'on m'a communiqués. Et c'est ça qui est fou, mais c'est la même chose d'ailleurs quand il y a eu le groupe de travail LR, où en fait ils se sont fondés énormément sur des études et des situations qui existent aux États-Unis, qui sont là c'est pas la même culture, c'est pas pareil aux États-Unis. Il y a, c'est vrai aussi, certainement des associations très très radicales, ce qui est pas le cas de mon association. Donc en fait, voilà, elle s'appuie sur des puis en plus, honnêtement, c'est d'une violence quand je vois qu'elle nous traite de fous furieux, du transgenrisme, qu'on est des ravagés du cerveau. C'est d'une énorme vulgarité, parce qu'en fait, elle consacre énormément de place, aux relations sexuelles, à la sexualité, notamment des femmes trans, parce que c'est vraiment nous, femmes trans, qui sommes mises, au pilori. C'est en parlant aussi d'idéologie, mais enfin, moi, ça me surprend à chaque fois et je suis consterné. Moi, je suis pas une idéologue, hein. Je suis une femme trans, je suis présidente d'une association. Mais voilà, moi, c'est pas une idéologie. Moi, je veux simplement, encore une fois, mon combat, et notamment puisque je travaille beaucoup avec des médecins, je travaille avec la Haute Autorité de Santé, avec l'assurance maladie, c'est simplement pour qu'on soit dans le droit commun, qu'il n'y ait aucune différence ni discrimination à notre égard, et encore une fois, qu'on vive notre vie tout à fait normalement. On fait de mal à personne.
Et en France, la France, c'est encore une exception, hein, puisque c'est le seul pays qui rembourse totalement les opérations de réassignation de genre.
Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des États aussi, au Canada, où ça peut se faire. En Belgique, je sais que ça peut se faire aussi. Mais en effet, la France a été le premier pays de ce point de vue-là. Et alors ça choque, en fait, quand ça a été décidé, c'était simplement parce qu'en effet, les transidentités, bon, à l'époque on parlait de la transidentité, ça conduit, enfin il faut quand même ça avoir en tête des chiffres, et ça pas des chiffres bidonnés ni quoi que ce soit. Il y a eu des tas d'enquêtes qui arrivent à peu près au même chiffre, même dans plusieurs pays semblables à la France. Il y a à peu près les deux tiers des personnes trans qui ont pensé un jour au suicide. Et c'est pas pour se faire plaisir, c'est pas une folie. Et puis il y a un tiers des personnes trans qui ont fait au moins une ou deux tentatives de suicide. Pourquoi? Bah, pas parce qu'on est trans, mais tout simplement parce que la vie trans peut être compliquée quand dans la famille on est rejeté, etc., etc. Donc le fait qu'il
vous vous avez fait un burn-out, en fait.
Alors j'ai fait un burn-out.
À un moment, c'était plus possible, en fait.
Alors j'ai fait un burn-out parce que d'abord, le poste que j'occupais à Radio France était vraiment très prenant, et puis en plus j'étais tellement mal dans ma tête. Pour ça, encore une fois, j'ai attendu la soixantaine, mais ça devenait de plus en plus insupportable avec au moins deux tentatives de suicide parce que. J'étais très très mal dans mon corps, même si là pour le coup ma famille à qui j'en avais parlé me soutenait fortement, et encore une fois je les en remercie, mais il n'empêche que je n'avais pas le courage au sein de ma société, bon, qui était Radio France mais qui n'est pas la pire, hein, en termes d'ouverture, mais à l'époque on ne parlait pas de transidentité. Donc bon, j'étais quand même assez connu de tous les salariés, et Ça aussi, c'est une réminiscence de ma jeunesse où j'ai quand même encore un fond. J'avais encore un fond de timidité. J'avais peur qu'on se moque de moi. J'ai tellement vécu le harcèlement scolaire, mais on parlait pas non plus, on mettait pas ce mot-là à l'époque, que j'ai toujours eu peur. Je me suis jamais senti légitime. Et c'est pour ça, même en réfléchissant dernièrement, pour moi, il y a deux légitimités. J'ai eu ma légitimité de journaliste, où là, franchement, j'y allais à fond parce que je me sentais légitime, et puis mon illégitimité d'être humain, de ne pas être ce que j'aurais dû être. Et là, ça m'a conduit vraiment à des situations où, en effet, j'avais encore parfois peur des autres, ou peur qu'on se moque de moi, ou peur que d'être discriminé. Et ça, je suis pas la seule à l'avoir vécu. Donc,
mais ça reste difficile de parler de ça quand même à ses proches quand vous l'annoncez à votre femme.
Le coming out est quand même très compliqué.
Ouais, et ça le reste pour...
Mais pour tout le monde, moi j'ai eu de la chance que ce soit bien accepté, mais en règle générale, ça peut se terminer, bon, ça s'améliore quand même, mais par un divorce ou des enfants qui rejettent leurs parents trans. Donc c'est jamais gagné. Et un coming out, c'est une énorme souffrance parce qu'on... c'est génial parce qu'on révèle ce qu'on est, donc ça c'est super, mais d'un autre côté on sait jamais en face comment la personne va réagir. Et donc voilà, donc il y a des choses qui avancent, et puis on est vraiment, en effet, puisqu'on parlait tout à l'heure de transphobie, quand on voit en effet cette proposition de loi des sénateurs LR, quand on voit ce livre qui est vraiment transphobe, par exemple, je vois aussi le fait de dire que donc pour nous, on voudrait imposer à tout le monde la transidentité, mais on retrouve exactement les mêmes arguments stupides qu'au moment, en effet, où l'homosexualité s'est révélée au grand public, alors que là aussi, ça existe depuis la mythologie, où on disait qu'en fait, il fallait pas trop en parler parce que tous les enfants allaient devenir des homos. Où on disait également que les homos voulaient imposer l'homosexualité à tout le monde. Bon, c'était stupide, ça ne s'est pas produit, évidemment, mais on retrouve exactement les mêmes arguments, les faux arguments, les contre-vérités qui ont pu être disséminées au moment, en effet, où, encore une fois, l'homosexualité s'est vraiment révélée au plus grand nombre. Nous, la transidentité, les transidentités se révèlent au plus grand nombre depuis quelques temps. Et c'est bien souvent, malheureusement, d'ailleurs, c'est pas la réaction transphobe est parfois liée simplement à une méconnaissance.
Ouais.
Et quand on ne connaît pas très bien, ben, on a peur. Et puis, ça suscite parfois de la haine.
Ouais.
Et on rejette.
On a avec nous un auditeur, Julien de Marseille. Bonjour, Julien.
Oui, bonjour, Sud Radio. Il y avait une question pour votre invité. Est-ce que pour lui, il est pour que les femmes trans comme lui soient intégrées aux compétitions féminines de sport?
Alors, elle et...
Oui, je ne comprends pas pourquoi vous m'appelez lui, mais bon.
Ouais, elle, oui, mais parce que c'est la voix après, excusez-moi, désolé pour vous.
Et donc, les compétitions de sport, oui, on a eu aussi ces débats-là sur des athlètes transgenres.
C'est un grand débat pour l'instant.
Merci Julien.
Oui, c'est une bonne question qu'on a d'ailleurs abordée lors de notre congrès l'année dernière à la Cité des Sciences. C'est compliqué. Il y a d'ailleurs un groupe de travail qui a été créé par le ministère de la Santé, ministère des Sports et des JO d'ailleurs, autour de tout ça, avec notamment Sandra Forgue, qui est une ex-championne olympique trans. Qui ne concourt plus. Et c'est compliqué parce qu'on met toujours en avant l'histoire de la testostérone, mais avec cette impression qu'il n'y a que les personnes trans qui auraient encore un taux de testostérone très fort. Il y a aussi, et sans oublier de le dire, des femmes cis, donc non trans, qui ont également des taux de testostérone importants. Donc moi, je trancherai pas là-dessus. Simplement, en effet, c'est une discrimination, par exemple, qu'une femme trans ne puisse pas concourir ou jouer avec des femmes cis. Il y a déjà des contrôles qui sont effectués au niveau de la testostérone. Bon, c'est pas si simple que ça, mais je pense que ça avance. Et puis, il y a des fédérations qui sont quand même très avancées là-dessus. Qui, par exemple, la fédération de rugby est très avancée sur cette question. Mais on trouve aussi là de la transphobie qui s'exerce. Bon, on est vraiment au tout début pas de la réflexion là-dessus. Moi, j'espère qu'on va pas, parce qu'il y a eu cette réflexion stupide de dire, mais il faudrait créer une troisième catégorie. Alors, il y aurait la catégorie homme, la catégorie femme et la catégorie trans. Alors là, c'est vraiment une discrimination. Alors, déjà, on est tellement peu nombreux, enfin sur la planète, qu'on va avoir du mal à trouver des champions de haut niveau uniquement trans. Donc non, il faut réintégrer, il faut faire en sorte que il y ait en effet une ouverture d'esprit. Voilà, et ce que je peux dire pour l'instant, mais c'est une réflexion qui avance énormément.
Oui, dans le milieu du sport, c'est assez compliqué. Mais est-ce que vous comprenez aussi toutes les questions qu'il y a, notamment sur les traitements hormonaux pour les enfants, les bloqueurs de puberté hein, pour les enfants alors, trans, où il y a une tribune, hein, je crois, dans Libération que vous avez co-signée,
ouais,
en disant que non, il y a pas à empêcher ces traitements en réalité, puisque ils sont nécessaires.
Non, alors c'est ça qui est terrible, hein. On l'évoquait tout à l'heure avec la proposition de loi des sénateurs LR qui ne veulent absolument rien, si c'est en effet une thérapie de conversion avant 18 ans. Mais d'abord, il y a des arguments complètement faux. Donc, comme je disais déjà, il n'y a pas d'intervention chirurgicale avant 18 ans. Exception faite, éventuellement 16 ans, torsoplastie. Traitement hormonal, alors les bloqueurs de puberté, c'est vraiment le fanion qu'on agite en disant c'est hyper dangereux, c'est expérimental. Sauf que ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est quand même un traitement hormonal donc qui bloque la puberté. Mmh. D'abord, il est très peu prescrit. On peut pas aller dans une pharmacie le demander, ça peut se faire que dans des hôpitaux et après énormément de rendez-vous, et en règle générale ça ne concerne vraiment que les jeunes trans qui sont dans une situation là aussi désespérée de tentative de suicide, de scarification. Et dire que c'est dangereux, expérimental, non, ça existe depuis des décennies. C'est prescrit à des enfants, à des ados qui ont une puberté précoce. Donc ce qui est amusant, c'est qu'en fait, pour les enfants cis, donc non trans, ça pose aucun problème. Sauf que c'est vrai, il peut y avoir des effets secondaires, mais comme pour n'importe quel traitement, hein, les femmes qui prennent la pilule, c'est un traitement hormonal et on sait qu'il peut y avoir des effets secondaires. Bon, on n'est pas en train de se battre contre la pilule, donc c'est la même chose. Donc dire que les traitements avec les bloqueurs de puberté, c'est très dangereux. Oui, il peut y avoir des effets secondaires, mais ça fait des décennies qu'ils ont été expérimentés et on connaît bien ce que ça fait.
Merci beaucoup, Béatrice Denaz, d'avoir été notre invitée, coprésidente de Transsanté France. Je rappelle votre livre, Ce corps qui n'était pas le mien, aux éditions First. Merci.
Sud Radio Béziers.
104.7.
Sud Radio.
Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de danse. Et s'il ne reste plus rien du tout et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout je remettrai de l'onde sur mes paupières. Je te sourirai sans larmes et sans prières. Et s'il ne reste plus rien, oh, du tout, et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, 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 ce sera la nôtre. Et si le temps change, tourne, tourne, tourne autour de toi.
Sans réserve, midi 13h, Alexis Poulain.
Alors là, on apprend, figurez-vous, lors de ce raout, ce dîner, enfin ce rendez-vous qui a duré 12 heures avec les chefs de parti, qu'Emmanuel Macron juge que limiter les mandats à la présidentielle serait une funeste connerie. Il a fallu 12 heures de blabla, ce sont les mots du président, funeste connerie, 12 heures, pour en arriver à ressortir la petite musique de la réforme institutionnelle avec l'idée de dynamiter, bien sûr, la limitation des mandats. Et c'est vrai, Emmanuel Macron, pour certains de ses aficionados, c'est le meilleur président que la France n'ait jamais connu. Alors pourquoi changer de président quand celui-ci est si bon ? Alors, c'est pas la première fois qu'on a cette petite musique sur « et si on avait une troisième candidature ? Et si un troisième mandat était possible ? Ce serait tellement bien. Rappelez-vous, c'était en juin dernier, Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale, un des proches d'Emmanuel Macron, à l'origine de la fondation de En Marche, déplorait lors d'un entretien au Figaro que le chef de l'État ne puisse se représenter en 2027. Il disait qu'il faudrait réformer la Constitution. À titre personnel, disait-il, je regrette tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire, et il déplorait la limitation du mandat présidentiel qui, selon ses dires, corsette la vie publique. Et puis, ne ratant jamais aucune occasion de rebondir dans le débat public, il y avait l'ancienne ministre de la Culture d'Emmanuel Macron, ancienne ministre de la Santé, on ne la présente plus, Roselyne Bachelot, qui lui, emboîtait le pas. On écoute ce qu'elle disait au micro de Public Sénat.
Je dois dire que tout le monde peut se retrouver dans cette proposition de Richard Ferrand qui n'a pas pour but d'offrir un troisième mandat à Emmanuel Macron parce qu'il ne peut lui offrir qu'une troisième candidature et non pas un troisième mandat. Donc tout le monde est d'accord pour la troisième candidature d'Emmanuel Macron, ceux qui veulent le réélire et ceux qui veulent le battre, parce que finalement, ce qui va être absolument déceptif pour les opposants à Emmanuel Macron, c'est qu'ils ne pourront pas lui régler son compte en 2027. Vous vous rendez compte, la tristesse ? Mais bien sûr, tout le monde veut que Emmanuel Macron puisse se représenter.
Mais bien sûr, tout le monde veut qu'Emmanuel Macron puisse se représenter. Vous aussi, j'imagine. Tout le monde, nous dit Roselyne. Et c'est vrai, ce serait l'occasion de refaire encore un match avec Emmanuel Macron. Alors, bien sûr, il y a eu Roselyne Bachelot, il y a eu Richard Ferrand, mais il y a encore un dernier qui a ajouté une petite pièce, une petite briquette à l'édifice pour préparer le terrain à une potentielle troisième candidature d'Emmanuel Macron. Et c'est l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin, qui s'y collait. On l'écoute.
Je pense qu'il faut revenir sur cette idée où on empêche le président de se représenter. Moi, je l'ai vécu autour de 2004-2005. Jacques Chirac, peu crédible comme candidat à nouveau, tout le monde pensait qu'il arrêterait. Et à ce moment-là, l'émergence de Sarkozy. Et c'est à ce moment-là, c'est, comme disent les Anglais, c'est le coming man qui attire un peu tous les regards. Et donc là, il va y en avoir plusieurs. Et tout ça fragilise le président.
Ah là là, sacré Jean-Pierre. On voit sa maîtrise de l'anglais. Vous vous rappelez, the yes needs the no to win. Là, il parle de coming man. Alors, il n'y a pas un coming man pour 2027, mais des coming men, ils sont nombreux. On parle de Gérald Darmanin, on parle d'Édouard Philippe, on parle de Bruno Le Maire, on parle de Laurent Wauquiez. Tous ces coming men qui seraient tellement déçus si finalement Emmanuel Macron se représentait. On le voit, ils sont nombreux à penser déjà à 2027 en se rasant le matin, y compris l'hôte actuel de l'Élysée. Voilà, donc on verra ce qu'il en est de cette réforme constitutionnelle. On va se retrouver dans un instant pour parler de la rentrée qui n'a jamais été aussi chère avec notre deuxième invité, Grégory Carré, de l'UFC Que Choisir. On se retrouve tout de suite.
Sud Radio Arcachon.
100.4.
Sud Radio.
Toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Sud Radio, Poulain sans réserve, midi 13h, Alexis Poulain.
Et on se retrouve tout de suite pour parler de l'inflation, du prix de cette rentrée qui n'a jamais été aussi chère. Une étude de l'UFC Que Choisir qui vient de sortir, qui nous montre que se nourrir coûte 25% plus cher qu'en janvier 2027. L'inflation continue d'impacter hein, le portefeuille des Français avec des prix qui sont toujours à la hausse, y compris dans l'alimentaire. Si ça ralentit, ça reste élevé. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé que les prix de 5000 produits n'augmenteront pas ou vont baisser, mais attention, en janvier 2024, il essaye de voir comment réunir industriels et distributeurs. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les dividendes, eux, se portent très bien, hein, notamment en France, puisque c'est près de 30% des dividendes en Europe. La tendance a été très marquée, avec un record, encore une fois, à 49,5 milliards de dollars de dividendes en France, puisque c'est parfois le prix et les prix à la hausse qui alimente l'inflation. Et il y a un truc qui n'augmente pas, c'est les salaires. Alors pour en parler avec nous, on a Grégory Carré en plateau de l'UFC Que Choisir. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors le ministre Bruno Le Maire vous a traité de malhonnête, l'UFC Que Choisir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'était...
Alors c'était il y a quelques mois, il y a le ministre et avec sa ministre déléguée Olivia Grégoire avait lancé l'initiative des trimestres anti-inflation. Mmh. Et donc on n'était pas tout à fait en phase sur l'impact de cette mesure. Le ministre il voulait y voir des signes encourageants et nous on était plutôt pessimistes et plutôt réservés sur l'impact de la mesure. Je dirais malheureusement pour les consommateurs, les chiffres nous ont donné raison, c'est-à-dire que l'inflation n'a fait qu'augmenter au premier trimestre et la mesure n'a pas permis du tout de juguler l'inflation, à tel point qu'aujourd'hui on est dans un second round de communication du ministre en essayant maintenant de vraiment limiter l'inflation, voire même de la diminuer. Voilà.
Mais alors, c'est-à-dire que jusqu'à présent, tout ce qu'a fait Bruno Le Maire a été inutile ou du moins a eu un impact plus que limité, voire négatif.
Ouais, on n'est pas dans une économie régulée, donc de toute façon, le champ des possibles pour le ministre reste relativement limité. Il y a des cadres de la loi. D'ailleurs, il a fait un certain nombre d'annonces hier. Une des annonces, c'était d'accélérer les négociations commerciales. Déjà, il faut légiférer pour que ça se passe. Et l'ordre de la portée de cette mesure, ce serait quasiment de gagner un mois par rapport au calendrier actuel, c'est-à-dire que ce serait pour espérer ressentir des effets à partir de, accrochez-vous, janvier prochain.
Oui, c'est
donc
ce qu'il a dit.
Donc là, on voit que le ministre a assez peu de cordes à son arc. En revanche, il est vrai que la situation est extrêmement sensible pour les consommateurs.
Ouais.
Vous l'avez dit, des prix qui, depuis janvier 2022, ont progressé dans l'alimentaire de 25%, c'est inédit.
Ouais.
Et ça a des conséquences, ça n'a pas que des conséquences dans le portefeuille, ça a des conséquences dans la consommation. Mmh. Il y a une déconsommation dans l'alimentaire, donc les gens se privent d'alimentation. Ça ne touche pas tout le monde de la même façon, hein. C'est bien sûr les ménages les plus modestes qui, eux, vont consentir les efforts les plus violents. En plus, ils n'ont pas d'arbitrage, c'est-à-dire que généralement, ils achètent plutôt des produits d'entrée de gamme, donc ils ne peuvent pas baisser en gamme. Et en plus, ils n'ont pas d'épargne, donc ils ne peuvent pas non plus aller piocher dans l'épargne pour maintenir le niveau de consommation alimentaire. Et ils vont même aller piocher dans d'autres postes budgétaires, c'est-à-dire que c'est finalement toute l'économie qui peut être mise à bas par une inflation sans précédent. Et c'est plein d'autres secteurs qui sont en train d'en pâtir. On parlait aujourd'hui, par exemple, de la faillite d'un groupe français textile, de Naf-Naf. Mmh. C'est pas lié forcément à l'augmentation des prix alimentaires, mais c'est un tout. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, on est vraiment dans une rentrée qui est pas tout à fait positif pour les consommateurs.
Mais est-ce que les acteurs économiques ont pas profité de l'effet d'aubaine de l'inflation ? Je parlais des dividendes qui n'ont jamais été aussi hauts. Est-ce que les distributeurs ont pas un peu tiré sur la corde et se rendent compte que finalement la déconsommation, ça va être une balle tirée dans le pied parce que les gens n'arrivent plus à acheter des produits devenus vraiment trop chers ?
Ça, en termes de conséquences, on est tout à fait en face. Je pense qu'effectivement, ils vont s'en mordre les doigts à moyen terme, mais généralement, les acteurs économiques raisonnent à court terme. Pour répondre à votre première question, de toute façon, on avait déjà eu ce débat-là quand on n'avait pas d'inflation, mais quand on avait des revenus agricoles qui s'effondraient, on voyait qu'il n'y avait pas d'impact sur les prix en rayon.
Mmh.
Là, c'est l'inverse. On a eu un certain décollage des prix des denrées agricoles et on a vu des prix en rayon qui ont plus que répercuté cette hausse.
Mmh.
Donc, il est fort évident que dans les étages intermédiaires, il y en a qui en ont profité pour constituer des marges sans précédent. Alors, ils nous mettent souvent en avant la crise Covid, mais la crise Covid, elle n'a pas été pour tout le monde. Les magasins qui étaient fermés pendant le Covid, ce n'étaient pas les magasins alimentaires. Les magasins alimentaires continuaient d'avoir une activité. Alors, fort heureusement, parce qu'on avait besoin de se nourrir, mais ça n'a pas été une situation qui était si terrible.
Après, ça a été l'excuse de la guerre en Ukraine, du prix des matières premières, des céréales, etc.
Des céréales, alors de l'énergie, ça c'est vrai, parce qu'en fait, l'industrie agroalimentaire a énormément besoin d'énergie. On mange quasiment du pétrole, on a l'impression. Mais bon, donc effectivement, en plus, il y a beaucoup de PME. Et les PME, probablement, s'approvisionnent relativement mal en termes d'énergie. C'est-à-dire qu'elles ne sécurisent pas suffisamment leurs contrats. Elles ont signé des contrats qui ont pu, elles, surreprésenter la hausse des cours de l'énergie. Et elles se retrouvent effectivement avec des factures qui augmentent. Mais malgré tout, tous les rayons alimentaires ont connu une très forte inflation, y compris ceux qui n'étaient pas forcément assujettis sur le cours du blé, des céréales ou qui n'avaient pas besoin de tant d'énergie.
Alors vous êtes nombreux à nous appeler au standard pour nous parler de cette rentrée qui coûte très cher. On va prendre tout de suite Christophe de l'Essonne.
Oui, allô ?
Bonjour, oui, bonjour Christophe.
Oui, bonjour. Écoutez, je vous appelle parce que j'entends parler beaucoup d'inflation depuis très longtemps. Je voudrais savoir exactement ce qui est pris, quels produits sont pris dans le, en compte dans le calcul de l'inflation. Parce qu'en fait, moi j'ai ma facture de gaz qui a doublé au 1er août. C'est passé de 110 euros à 200 euros de mensualité de gaz. L'essence augmente, l'alimentaire on annonce 17%. La taxe foncière augmente énormément et on nous dit qu'il n'y a que 6% en France d'inflation. Ouais. Qu'est-ce qui fait baisser en fait ce taux ?
Alors, qu'est-ce qui fait baisser ? Qu'est-ce qui n'augmente pas, finalement ?
Alors, votre question est très intéressante. Ça me rappelle, quand on parlait du Covid, où on a tous progressé sur calculer un taux de malade, des choses comme ça, ben on va tous progresser dans le calcul de l'inflation. Et je pense que les professionnels aussi ont besoin de progresser. Alors, qu'est-ce que l'inflation ? L'inflation, telle que l'INSEE la communique, c'est une inflation qui est calculée sur 12 mois. Mmh. Donc aujourd'hui, on est en train de calculer l'inflation, l'augmentation des prix, entre août 2023 et on compare à août 2022. Vous voyez la subtilité pour les prix alimentaires. Hein, les prix alimentaires, on compare aujourd'hui les prix alimentaires par rapport à ce qu'ils étaient il y a 12 mois, mais il y a 12 mois, ils avaient déjà augmenté de 10 points par rapport aux 5 mois qui précédaient. Ouais. Donc c'est pour ça que vous allez entendre des chiffres différents. Maintenant, qu'est-ce que l'INSEE met dans sa mesure de l'inflation ? En fait, il est censé prendre en compte l'ensemble de ce que vous dépensez, un ménage moyen, dans une année. Donc vous allez acheter de l'alimentaire, mais pas seulement. Vous allez avoir des dépenses pour le logement. Vous allez avoir des dépenses de loyer. Vous allez aussi avoir des dépenses de santé, des dépenses de transport, y compris l'achat du véhicule. Alors, on n'achète pas un véhicule tous les ans. Oui. Donc, ils vont diviser par l'année la moyenne d'amortissement. Il y a quand même une subtilité au niveau de l'INSEE. C'est que l'INSEE donne un poids beaucoup plus important à deux postes qui sont des postes pour lesquels on dépense assez peu. Pour les gens qui sont propriétaires d'un logement, vous ne payez pas de loyer. Eh bien, l'INSEE va quand même faire comme si vous deviez payer un loyer. Et du coup, ça va impacter dans le calcul de l'indice. Sauf que les loyers, fort heureusement, sont assez peu inflationnistes. Mmh. Même, il va aussi mettre les dépenses que vous avez en termes de santé que vous ne payez pas parce que c'est payé par l'assurance maladie. De nouveau, ça permet de relativement baisser le chiffre de l'inflation. C'est pour ça d'ailleurs que, au niveau de l'Europe, l'INSEE doit communiquer ses chiffres de l'inflation et l'Europe lui a dit non, moi je veux pas que vous calculiez comme ça. Vous allez me calculer ce qu'on appelle un indice harmonisé, comme tous vos camarades européens. Mmh. Et d'ailleurs, on parle de querelle de chiffres, mais le chiffre de l'inflation harmonisé au niveau de l'INSEE est plus d'1% supérieur au chiffre qu'elle communique auprès du grand public.
Voilà. Donc en réalité, quand le ministre se félicite que la France n'a pas des taux d'inflation comme nos voisins européens, c'est là encore...
Il faudrait regarder l'indice de prix harmonisé et après on va prendre en compte l'ensemble des dépenses des consommateurs, y compris les assurances, des choses comme ça. Et donc c'est vrai qu'on est peut-être plus sensible à ce qu'on dépense toutes les semaines, comme les carburants, comme l'alimentaire, qui... En moyenne, pour un ménage modeste, ça va représenter quand même 30% des dépenses. Pour un ménage aisé, ça va être plutôt 20%. Donc c'est vrai que d'ailleurs, on est tous inégaux face à l'inflation. Un ménage modeste, lui, le ressent beaucoup plus violemment, parce que ça, c'est un poste qui varie très très fortement au cours du temps.
C'est les dépenses contraintes. Enfin, on parlait du logement. La rentrée, le journal L'Humanité faisait sa couverture sur ces étudiants qui sont obligés de refuser parfois des études parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Ouais. On a vu, après le Covid, les files d'attente devant les banques alimentaires des étudiants. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème aussi sur l'allocation de rentrée qui ne va pas suivre ? Enfin, quand on est parent, qu'on a des enfants qui sont en âge de faire des études ou qui sont à l'école, combien ça coûte cette rentrée et est-ce que ça ne va pas être encore une autre catastrophe sociale en préparation ?
Alors effectivement, les prix... Nous, on a travaillé que sur les fournitures, parce que pour les étudiants, c'est autre chose. Les fournitures ont pris 11% en un an.
Rien que les fournitures, donc les
fournitures
cahiers,
scolaires, cahiers, cartables, etc. Ce que vous avez sur la liste du ministère de l'Éducation nationale. Ouais. On a pris la liste et puis nous, on allait regarder les prix des marques nationales et des marques de distributeurs. Donc 11% sur un an, et ben même l'État n'est pas capable de suivre parce que l'allocation scolaire, elle a fait 5,6%. Donc vous voyez, même l'État a du mal à suivre. Donc imaginez effectivement pour un ménage qui n'a pas de marge d'arbitrage.
Elle est de combien l'allocation de rentrée scolaire ?
Plus 5,6%. Le montant, je ne serais...
Vous pouvez pas le dire,
je ne voudrais pas vous dire des bêtises. Ouais,
parce que je me rappelle, à l'époque où il n'y avait pas cette inflation, il y avait des débats surréalistes sur les écrans plats que les parents achetaient avec cette allocation. On en est loin aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des baisses en vue ? On en parlait à l'instant.
Alors, est-ce qu'il y a des baisses en vue ? Alors, on va parler de l'alimentaire. Ouais. Est-ce qu'il y a des baisses en vue ? vous avez des milliers de références dans, en magasin. Quand on vous dit il y a 5000 références qui vont se stabiliser, voire diminuer, alors déjà, il y a une grande nuance entre les deux termes.
5000, hein, ouais.
5000, ben, ça paraît un chiffre énorme, mais 5000, c'est pas beaucoup. Parce que nous, on relève des prix tous les jours à l'UFC Que Choisir. On relève les prix tous les jours en grande surface. Dans une enseigne donnée, vous avez entre 50 000 et 70 000 références.
Rien qu'une enseigne. Donc
voilà, rien qu'une enseigne. Vous multipliez par le nombre d'enseignes, vous imaginez le nombre de références qu'il y a. Donc, c'est quand même assez facile d'aller piocher 5 000 références. Mmh. Ne vous attendez pas demain matin dans votre supermarché à trouver ces 5 000 références. Ces 5 000 références, elles sont réparties entre une dizaine d'acteurs. Ça veut dire que vous êtes entre 500 et 1000 références dans un magasin. Mmh. Et un magasin, il est libre de mettre ce qu'il veut dans l'assortiment de son enseigne. Je vous ai dit, il y a 70 000 références dans une enseigne. Le magasin, il ne met pas les 70 000. Donc, quel produit on va trouver dedans? On ne sait pas. Très probablement, vous aurez beaucoup de marques de distributeurs. Ouais. Et l'engagement, il n'est pas très ferme. Hein. C'est stabilité ou diminution. La nuance est assez importante. Ouais. Et puis même diminution, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis, les prix ont pris 25%. On retrouvera pas les moins 25%. Tout les acteurs économiques nous l'annoncent très clairement, hein, que ce soit pleine, les transformateurs ou les distributeurs. Vous ne la retrouverez pas.
Les distributeurs, en plus, jouent le jeu de manière assez opaque, parce qu'il n'y a pas de coin dans les magasins où on va dire, là, allez-y, c'est le coin anti-inflation. Il faut aller chercher les différents produits. Oui. Il y a le jeu aussi des producteurs qui font qu'ils baissent en réalité le nombre de produits, le nombre de gâteaux, le poids des pâtes, enfin, qui jouent sur le packaging pour faire croire que finalement ça a baissé alors qu'en réalité vous achetez moins de produits. Tout ça, c'est très opaque et on a l'impression d'un jeu de dupes.
Oui, alors les techniques marketing, c'est pas nouveau en termes d'inflation. D'ailleurs, c'est plutôt en période de non-inflation. C'est une façon de vous faire augmenter votre panier sans que vous le sentiez. Vous savez, on est tous les deux pas très bien rasés, mais avant, on avait des rasoirs de lames. Maintenant, il y a 5 lames. Bon, ben voilà.
Incroyable.
Ça, c'est une façon de faire augmenter le panier de dépenses. Hein. D'ailleurs, on n'est pas mieux rasé avec 5 lames. Pour le downsizing, vous savez le terme que le ministre a employé, la réduflation, pour faire un néologisme monstrueux français, c'était le fait de diminuer le packaging en laissant penser que le prix n'avait pas augmenté, voilà, alors que le prix au kilo a plutôt augmenté. Ça, c'est une mesure qui existe depuis la nuit des temps, qui n'est pas propre à l'inflation. Là, l'inflation, elle n'est pas cachée, elle est monstrueuse, énorme et intenable pour les consommateurs.
Oui, c'est clair. C'est pas un sentiment d'inflation, vous le vivez vraiment. On va prendre un deuxième auditeur qui nous a appelé, vous êtes nombreux à appeler ce matin. Emmanuel de Pessac, bonjour.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour Alexis,
bonjour Emmanuel.
Ça vous fait rire à chaque fois. Oui, alors moi j'ai ma fille qui travaille dans une des 4 grandes enseignes que je citerai évidemment pas de la grande distribution. Elle est responsable de rayon sur un rayon fruits et légumes. Donc c'est un indépendant, parce que dans les grandes surfaces, vous avez les indépendants, les intégrés. Les intégrés dépendent d'une centrale nationale, les indépendants, c'est leur commerce, mais ils dépendent aussi de la centrale. Voilà, c'est juste pour expliquer la différence. Mm-hmm. Et son patron lui dit, alors je connais pas pour les autres rayons, mais sur les fruits et légumes, il dit, j'ai les prix de la centrale, donc ils sont déjà margés, qui lui viennent. Et il lui dit, tu fais plus 30. Voilà.
Alors, vous avez ce genre de retour aussi
Non. Et le ministre ne l'a pas non plus, parce que dans les propositions, on a parlé des 5 moles produits. Il y a une autre proposition qui était justement que les baisses consenties par les fabricants soient immédiatement répercutées en rayon. Alors, moi, je lui souhaite bon courage. Secret des affaires, moi, je ne le connais pas. Ouais. Moi, ce que je peux regarder, ce que j'aime bien regarder, c'est le cours des matières premières et les prix en rayon. Hein. Les prix agricoles et les prix en rayon. Donc, à un moment, quand les prix étaient stables pour les consommateurs, ça a été le cas dans plusieurs années, c'était les prix payés aux agriculteurs qui diminuaient. Voilà. Et le gouvernement, on lui a dit qu'il faudrait peut-être essayer de savoir où disparaît la marge. Alors, il a créé un observatoire des prix et des marges, extraordinaire institution, qui n'a jamais réussi à trouver le fin mot et qui a conclu fin d'année dernière en nous disant qu'il n'y a pas de constitution de marge abusive des fournisseurs et des distributeurs. Ils ont plutôt amorti l'inflation. Ouais. Bon, les chiffres leur donnent tort. Donc, malheureusement, on attendait, nous, pas grand-chose de cet observatoire, mais ça n'a pas permis de trancher. Donc le ministre, lui, dit maintenant, je vais essayer d'aller enquêter. Donc il va envoyer la répression des fraudes sur le terrain. Le problème, c'est, je vous dis, il y a des centaines de milliers de références, il y a des acteurs, il y en a par milliers. Hein. Nous, des grandes surfaces, on en enquête 6000 tous les jours. Donc je ne sais pas comment la répression des fraudes va le faire, mais en tout cas, elle a dit, elle s'engageait à aller le vérifier. Donc j'espère que ce n'est pas que de l'effet d'annonce, qu'il y aura des sanctions et pourquoi pas du naming and shaming.
On verra. Merci Emmanuel. Alors est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez l'impression que le gouvernement est pleinement mobilisé sur cette question de l'inflation qui préoccupe quand même en numéro un les Français, ou est-ce que c'est vraiment de l'improvisation, de la communication plutôt qu'un vrai sujet politique et qui est en haut de l'agenda pour le gouvernement ?
Alors, je pense qu'il est relativement mobilisé. L'année dernière, il y avait quand même un envolé des prix de l'énergie et il y a eu quand même un bouclier tarifaire pour les consommateurs. Là, on ne peut pas le nier. D'ailleurs, vous savez, la différence entre les PME et les consommateurs, c'est que les PME n'ont pas bénéficié de ce bouclier énergétique et certaines ont des factures qui s'envolent. Ouais. Nous, ça décolle. Hein. Enfin, l'électricité, plus 27% en un an. C'est énorme. Malgré tout, c'est moins pire apparemment que ce qu'on devrait avoir. Parce que le marché aujourd'hui est mondialisé, parce que EDF, qui est un producteur qu'on a payé avec nos impôts, est obligé d'exporter une partie de sa production. Mmh. Donc, nous, et de racheter. Donc voilà, donc nous, on est perdant-perdant, mais malgré tout, semble-t-il, pour l'énergie, il y a eu un certain nombre d'efforts qui ont été menés. Je pense que dans l'alimentaire, en revanche, ils ne savent pas trop quoi faire. Mmh. Ils sont un peu désarmés. Je pense qu'ils s'inquiètent quand même, parce que quand les prix augmentent, que les gens râlent, ça fait peur. Hein, il y a des précédents dans l'histoire, donc ça fait peur. Il y a eu les gilets jaunes, je vous rappelle que quand les gilets jaunes se sont mobilisés, on n'était pas dans une situation qui n'avait rien à voir, les prix du carburant, mais on serait très content de payer les prix actuels. Et l'inflation alimentaire, elle était quasiment inexistante. Donc je pense qu'ils ont très peur. Et puis ils ont aussi très peur pour l'économie, parce que c'est tous les autres pans de l'économie qui sont concernés. Chez Que Choisir, on teste des produits, donc on sait quand les gens viennent consulter nos tests pour acheter. On voit bien qu'il y a une baisse de trafic sur des biens d'équipement. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de consommateurs qui se serrent la ceinture, qui sont en train de reporter à plus tard des achats. Eh ben, si les entreprises ne trouvent pas de débouchés, on a quand même aussi un peu peur pour l'emploi dans la foulée. Donc je pense que le ministre, il a tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas un effondrement de la consommation. Hein. C'est même pas être keynésien, là.
C'est simplement soutenir la consommation d'une manière ou d'une autre et arriver à ce que les différentes entreprises trouvent des débouchés. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir ? Parce qu'on a l'impression qu'on ne retrouvera jamais des prix d'avant l'inflation. On a l'impression que tous les trimestres, on a un ministre qui nous dit « Oui, le pic est passé, il est derrière nous ». En réalité, ça augmente toujours. Est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles pour sortir de cette spirale inflationniste ?
Malheureusement, les annonces que j'ai entendues des professionnels ne m'encouragent pas à beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que les représentants des fabricants, des industriels et des distributeurs nous promettent des baisses qui sont quand même toutes relatives. Donc vraiment, semble-t-il, effectivement, les prix bas, on ne retrouvera pas les prix d'antan dans l'alimentaire, en tout cas, on nous le promet. Maintenant, le consommateur peut avoir un rôle à jouer, hein, c'est un arbitre, c'est-à-dire que il y a peut-être des enseignes qui jouent mieux le jeu que d'autres. Alors, faut pas croire, c'est pas celles qui communiquent le plus fort, hein, c'est pas celles qui crient le plus fort qui font les meilleurs prix, forcément. Mais faites votre jeu d'arbitre. Allez chez ceux qui proposent les prix les plus bas. Ça les incitera au moins à réagir, parce que sous couvert quand même de l'inflation des denrées alimentaires, de la guerre en Ukraine, on a accepter certaines hausses de prix qui, finalement, quand on regarde les données économiques aujourd'hui, nous semblent finalement pas si justifiées que ça. Vous avez parlé des résultats très confortables de certaines multinationales. Ouais. Donc, vraiment, il y en a qui effectivement ont réussi à bien faire leur beurre.
Merci beaucoup Grégory Carré de l'UFC Que Choisir. On a fait un point sur l'inflation, donc il reste le boycott et sinon d'autres solutions. Le ministre, on verra ce qu'il pourra faire. Merci à tous d'avoir suivi cette première de Poulain sans réserve. On se retrouve la semaine prochaine et toutes les semaines le vendredi de 12h à 13h. Et puis on enchaîne avec, quand même, vous aurez André Bercoff le vendredi, la culture dans tous ses états. André Bercoff et Céline Alonso qui reçoivent aujourd'hui Stéphane Bern, dans la culture dans tous ses états, pour parler de la reine Elisabeth II et de son travail de conservation du patrimoine. Bonne journée sur Sud Radio.
Sud Radio Rodez. 104.4. Sud Radio.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir, j'envie celui qui verra son réveil. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil. Si tu savais comme c'est beau. Tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Elle a laissé son cœur entre nous. Entre nous et le reste. Elle a laissé son cœur à genoux. Sur le sol des promesses. Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
Sud Radio.
Sud
Radio.
Safe. smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think it's like red.